Bonjour, chers auditeurs. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous accueillir dans les studios du Rockcast de Radio Grand Ciel avec Roland Richard. Elle va nous faire la technique, enregistrer ses émissions, bien sûr, et les réaliser. Et ce matin, je reçois dans nos studios du Rockcast, donc de la rue Mérigot, monsieur le maire de Luret, Alain Fillon. Bonjour, Alain.
Bonjour, Marie-France.
Et sa fille, Marlène Martin Fillon, qui est professeur de lettres au collège Albert Camus. Et ils sont là tous les deux pour une raison très particulière et très émouvante à la fois, puisque à la fin du mois de septembre va avoir lieu une semaine du souvenir à Luret. Alain, qu'est-ce que c'est que cette semaine du souvenir ?
Alors la semaine du souvenir, c'est une affaire qui a commencé, j'allais dire, d'une manière très banale, par le besoin de l'inauguration de 4 nouvelles rues. Nous avions créé un nouveau lotissement et il s'est fait nécessité de dénommer les 4 rues de ce lotissement. Au conseil municipal de Luret, depuis les dernières élections, il y a maintenant la parité et un certain nombre de femmes présentes avec bonheur et avec satisfaction. Je dis cela parce que dans la réflexion que nous avons eue, certainement que les femmes ont apporté une réflexion que nous n'aurions pas eue s'il n'y avait pas eu ce nombre de femmes dans le conseil municipal. En effet, elles ont fait remarquer, notamment par la voix de l'une, qu'il y avait à Luret pour l'instant 43 rues et qu'aucune rue ne portait le nom d'une femme. Donc, constatation faite, les propositions ont été les suivantes pour les 4 rues. Léontine Pauget, dont on reparlera tout à l'heure, abattue en 1940 à Luret par les Allemands. Ensuite, Anne Frank. Et puis, là, deux pilotes canadiens abattus sur le sol lurésien durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, à travers cette dénomination de rue, on s'est aperçu, sans que ça ait été au départ le leitmotiv ou le cordon ombilical, on s'est aperçu qu'en fin de compte, les 4 noms avaient quelque chose à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Donc l'idée a été que nous fassions à ce sujet un moment de souvenir, de mémoire, et puis d'une discussion que j'ai eue avec Marlène, ma fille. D'ailleurs, je voudrais préciser que ce matin, ce n'est pas qu'une histoire de famille dans les studios de Radio Grand Ciel.
Mais pourquoi pas ?
Non, ce que je veux dire, c'est que si nous sommes là tous les deux, c'est parce que nous avions bien évidemment invité un certain nombre d'autres personnes du comité de pilotage, mais qui, pour des raisons professionnelles ou de congés actuels, ne pouvaient pas être présents. Donc, d'une discussion que j'ai eue avec Marlène, l'idée a été que, au fait, ces 4 noms avait retentissement auprès d'événements très importants de la Seconde Guerre mondiale et d'une manière plus générale. Par exemple, quand on parle de Léontine Pauget, Jean Moulin disait que ça a été le premier acte de résistance en Eure-et-Loir. Et venant de l'écriture de Jean Moulin, c'est pas une mince affaire, puisque Jean Moulin est bien souvent cité et reconnu comme étant la figure emblématique de la résistance en Eure-et-Loir. Donc, Léontine Pauget, c'est la résistance. Les 2 pilotes canadiens, c'est la guerre en elle-même, c'est l'aviation.
Et ce sont les Canadiens qui ont libéré Luret.
Ce ne sont pas les Canadiens, ce sont les Américains, mais les 2 pilotes canadiens ont été abattus sur le sol lurésien. Puis enfin, pour terminer, Anne Frank. Anne Frank avec ce que cela comporte, la Shoah, donc des moments graves, tristes de cette époque de Seconde Guerre mondiale.
Le premier contact que j'ai eu avec le personnage d'Anne Frank, j'étais très petite, enfin très petite. Mais je suis allée voir le film qui s'appelait, je crois, Anne Frank. C'était très classique. Et j'ai été vraiment très émue. Enfin, ça m'a beaucoup touchée parce que j'avais probablement le même âge que cette jeune fille qui était décrite dans le film, merveilleusement d'ailleurs, par Audrey Hepburn. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et ensuite, je n'ai fait que la découvrir un peu plus. C'est vrai qu'il y a une espèce de mythe autour d'elle. Elle est devenue une héroïne à part entière.
Oui, tout à fait. Et puis, Marlène en parlera beaucoup mieux que moi. Le fait que sur le personnage d'Anne Frank, c'est aussi la jeunesse, c'est un message. Cette semaine du souvenir que nous mettons en place à Luret, semaine du souvenir ou de la mémoire, bien évidemment, elle s'adresse et participeront tout public, mais en particulier, c'est un message que l'on envoie à la jeunesse. Car je crois que, et sans être trop négatif, je crois qu'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, des périodes comme cela, des Anne Frank, probablement qu'il en existe, il en a existé, il en existera encore. Et je pense qu'il faut que la jeunesse en soit bien consciente.
Marlène, parle-nous d'Anne Frank.
Alors Anne Frank, c'est une jeune fille déjà qui est obligée de partir d'Allemagne. On oublie souvent que la famille Frank venait d'Allemagne. Ils ne sont pas du tout hollandais. Donc lorsqu'ils ont vu la montée du nazisme dans leur pays, Otto Frank, qui était son père avec sa mère, Edith Frank, ont tout de suite ressenti le danger qui allait tomber sur leurs épaules. Donc ils ont espéré que Amsterdam serait une ville qui pourrait les accueillir et les protéger. Et là aussi, très vite, Otto Frank a prévenu Margot et Anne, hein, ses filles, leur disant qu'ils allaient peut-être partir. Donc, fin de compte, ils ne sont pas partis loin. Ils sont allés se cacher dans l'entreprise où travaillait Otto Frank, dans ce qu'ils ont à Amsterdam, ce qu'ils ont appelé l'annexe. Donc, en fait, c'était derrière les bureaux. Ils avaient eu le temps d'organiser, puisque chaque jour partaient des vivres, des vêtements, du mobilier. Et ils ont pu là-bas s'y installer. Alors au départ, ils étaient tous les quatre. Puis ensuite va venir une famille de trois personnes. Et puis ensuite un médecin. Ils seront au total huit à vivre dans l'annexe avec tout ce que ça comporte de proximité. Et voire parfois d'agacement, notamment pour Anne Frank qui est une jeune adolescente et qui a beaucoup de mal à supporter sa mère.
Mais je fais une petite digression, mais en fait, ce qui m'étonne toujours, j'en ai parlé d'ailleurs avec un ami juif récemment, je me demande pourquoi ils n'ont pas essayé, lui non plus, il a été arrêté, déporté, et heureusement il en est revenu, avec un numéro marqué sur le bras, mais je ne comprenais pas pourquoi ils n'avaient pas essayé d'aller plus loin. Parce que est-ce qu'ils n'ont pas senti que là, c'était encore trop près, qu'il fallait vraiment s'expatrier? Il y a beaucoup de Juifs qui sont partis aux États-Unis, par exemple. Est-ce qu'ils n'avaient pas les moyens, est-ce qu'ils n'avaient pas la possibilité, ni les réseaux pour pouvoir partir?
Alors, je crois qu'au départ, tout simplement, ils n'ont pas vu le danger dans les autres pays d'Europe. Je pense notamment aux Juifs de France, qui, eux, étaient persuadés que jamais le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité pourrait un jour les dénoncer, comme lors des rafles du Veldiv, dont on vient de commémorer le 16 juillet et le 21 juillet, cet anniversaire terrible. Et ensuite, vraiment, enfin, je pense sincèrement qu'ils n'ont pas imaginé qu'ils ne seraient pas à l'abri. Ensuite, je crois qu'il y a eu les problèmes d'argent, puisqu'on les a spoliés dès le départ, on ne leur a plus permis de travailler. Donc, en Allemagne, ils ont tout de suite été assez restreints.
Et avant même cette spoliation, ça ne leur était pas venu à l'idée, tout simplement, quoi?
Oui, sûrement, et puis...
Parce qu'alors Carole, cette amie, me disait, mais vous savez, en fait, c'était notre pays. Imaginez que vous, on vous dise actuellement, il faut partir, ça va très mal se passer, c'est terrible, il faut partir.
Mais il faut savoir que la jeune démocratie qui était l'Allemagne à ce moment-là est tombée dans la dictature de manière très rapide. Donc, fin de compte, j'allais presque dire qu'ils n'ont pas imaginé qu'ils pourraient en arriver là. Il y a un film qui s'appelle Die Welle, La Vague, qui montre bien ce professeur d'histoire, justement parce que les élèves lui posent cette question, mais comment on a pu arriver à soutenir une telle idéologie?
Et lui... Surtout avec un... Je ne peux pas le qualifier de type, enfin si, je peux le qualifier de tout, mais je trouve qu'il n'avait pas de charisme. Bon, j'en parle 50 ans plus tard. Enfin, quand on l'entend hurler dans son micro, on se dit, mais c'est pas possible.
On est dans un contexte économique très défavorisé, puisqu'il y a eu le crash boursier, on est entre les deux guerres, il y a eu des mouvements de population très importants à ce moment-là. Enfin, vraiment, c'est montré dans Die Welle, cet enseignant, je reprends, il arrive à créer un salut, il arrive à créer un uniforme, il crée un symbole.
Ça emmène il embrigade, quoi.
Voilà, et il emmène un des élèves jusqu'au suicide. Cette démonstration dans ce film, qui est au départ un roman, on voit bien justement comment il a été possible d'endoctriner. Alors nous, aujourd'hui, ça nous paraît, je pense, inimaginable parce qu'on sait quelles ont été les conséquences de cette autocratie, de cette dictature. À l'époque, je ne pense pas que les gens avaient le recul nécessaire. Il ne faut pas oublier non plus, et c'était le cas de la France, que nous étions dans un mouvement antisémite. La France est divisée en deux, par exemple, avec l'affaire Dreyfus. Il y a les anti-Dreyfusards, les Dreyfusards. C'est très bien montré hein, au mémorial de la Shoah, dans la première pièce de ce mémorial. On essaie d'expliquer aux gens comment en est-on arrivé à détester les Juifs. C'est depuis le Christ. Et déjà au Moyen-Âge, on brûlait les Juifs. Donc, fin de compte, dans ce mouvement de population, dans cette économie qui est chamboulée, il fallait bien à un moment donné chercher aussi les origines des problèmes.
Mais l'origine de cette manifestation anti-juive, justement, cet ami me disait, mais ça remonte au Christ, ce sont les Juifs qui ont tué le Christ. En réalité, c'est même pas ça.
Non.
Ce sont les Romains.
Oui, ce sont les Romains.
Il faut quand même pas. C'est quand même invraisemblable que ça ait pu perdurer. Enfin, des idées pareilles, c'est incroyable, quoi.
Et si tu prends l'exemple de la Pologne, par exemple. La Pologne était antisémite. Lorsque il y a très peu de Juifs polonais qui sont revenus des camps. C'est eux qui ont subi vraiment les pertes les plus lourdes. Mais lorsque les Juifs veulent revenir en Pologne, pour ceux qui ont réussi à surmonter les camps des concentrations et d'extermination, il faut savoir que les Polonais n'en veulent pas. C'est pour ça qu'à ce moment-là, les Juifs cherchent à retourner en Israël.
Dès ce moment-là.
Ah, dès ce moment-là. Ils ne sont absolument pas désirés en Pologne.
Et comment se fait-il qu'il ait fallu... L'Exodus, et à grand-peine d'ailleurs, ils ont eu beaucoup de mal à retourner en Israël. Ça n'a pas pu être mis en place, ça, dès ce moment-là.
Non. Lorsque les Juifs qui ont été témoins de l'extermination sont revenus, on leur a demandé de ne pas parler. On leur a demandé de ne pas raconter. Donc, on ne savait pas trop quoi faire d'eux.
Et les Américains qui avaient libéré les camps, et d'autres nations sans doute, avaient vu, eux, et ils ont parlé.
Regarde les récits de la Shoah commencent dans quelle année? En quelle année commencent les récits de la Shoah? Bien après 1970. La reconnaissance des justes va vraiment aller à son apogée lorsque Jacques Chirac fait son discours extraordinaire en 1995 au Valdiv, où on reconnaît que la France a participé. Les Allemands, les nazis n'ont jamais demandé à ce que les enfants soient déportés.
Ça a été une volonté des Français?
Oui.
Et l'ordre venait d'où? De Pétain ou de son entourage?
Je pense de l'entourage de Pétain. Alors je tiens quand même à nuancer le propos, parce que faut savoir que quelques semaines avant, là aussi on le voit bien au mémorial de la Shoah, tu sais, on avait répertorié tous les Juifs, notamment de Paris, et il y a eu à la préfecture de Paris, là aussi, des gens admirables qui sont allés prévenir qu'il y aurait une rafle. Et notamment, enfin, nous on l'avait vécu avec un ami lurésien qui s'appelle Jacques Rosenbaum, on pensait qu'on viendrait chercher que les hommes. On ne pensait pas qu'on viendrait prendre les femmes et les enfants. Dans la rafle aussi, dans le film, tu le vois bien, il s'en va, Gad Elmaleh, aussi par les toits de Paris. Et à aucun moment, il ne pense qu'on va rafler les enfants.
Ça n'a pas existé qu'à Paris. Mon beau-père, le docteur Roche, qui était à l'époque directeur du sanatorium de Dreux, a sauvé, au moins, le docteur Ebner, mais avait prévenu tous les autres, c'est-à-dire le docteur Jungwitz. Il avait accueilli les enfants de ces gens-là dans son préventorium, en les faisant passer comme malades, et puis ses amis juifs aussi, naturellement. Donc, ils ont tous essayé de prévenir. Et c'est très curieux, parce qu'il avait prévenu aussi un autre médecin qui était très connu à Dreux, et qui lui a dit « Non, mais de toute façon, moi, je ne risque rien, je ne suis pas juif », et qui, en fait, s'est enfui dans la nuit, parce que c'était quand même... c'était pressant.
Pour répondre à ta question initiale, fin de compte, la question que posent souvent les jeunes, moi je l'ai vécu, hein, je les ai emmenés en 2013, notamment à Auschwitz-Birkenau en voyage de mémoire, c'est un, comment cela a-t-il été possible? Et deuxièmement, comment a-t-on laissé faire? Mais moi je pose la question inverse, aujourd'hui que laisse-t-on faire? L'antisémitisme existe toujours, le racisme existe toujours, et on n'a jamais vu autant d'actes homophobes qu'actuellement. Et chacun de nous... Oui, c'est des dossiers d'État, oui, c'est l'État qui doit apporter une réponse, mais chacun d'entre nous, que fait-on au quotidien pour permettre que ça n'existe plus?
Vaste question, vaste programme.
Pour revenir au début à ta question, Marie-France, pourquoi, en fin de compte, les gens ne se sont pas expatriés plus loin que l'Allemagne, des territoires?
Plus loin et plus vite.
Plus vite, parce que je pense, dans un premier temps, ils n'étaient pas connus suffisamment les objectifs de tout le monde nazi. Probablement.
Ben ça, j'ai des amis allemands qui, effectivement, m'ont certifié qu'ils n'avaient rien vu venir et rien compris à ce qui se passait.
Probablement à tort, parce que le livre d'Hitler, Mein Kampf, est quand même paru bien avant.
Alors, il ne l'avait pas lu ou quoi ?
Où il était mentionné un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis, deuxièmement, beaucoup d'entre eux, très attachés au pays où ils étaient, oui. Que ce soit la Hollande, puisqu'on parlait de Anne Frank tout à l'heure, la famille Frank, ou que ce soit la France, étaient tellement attachés au pays qu'il n'était pas possible qu'en fin de compte, on puisse commettre des actes aussi violents, aussi destructifs, dès l'instant où ils appartenaient. Certains même, avaient servi dans l'armée française. Donc, à ce titre-là, étaient persuadés que la barbarie n'irait pas jusque-là. Moi, je pense que c'est ça. C'est probablement, tu dis, une méconnaissance des objectifs qui étaient des objectifs nazis de l'époque.
Je veux dire que c'était quand même carrément incroyable. Comment imaginer une telle monstruosité ?
Alors, moi, je voudrais rajouter deux choses. Le 9 octobre 1942, Anne Frank écoute la radio anglaise. Et elle écrit ça dans son journal. Elle écrit « La radio anglaise parle d'asphyxie par le gaz. Je suis complètement bouleversée. » C'était de l'ordre de la rumeur. Il n'arrivait pas à y croire. Et pour revenir à ta question, j'ai lu un livre là récemment. J'étais en train de rechercher le titre. Ça s'appelle « Le parrain et le rabbin » de Sam Bernett. J'ai découvert une histoire que je connaissais absolument pas. C'est un rabbin qui, évidemment, est parti aux États-Unis et qui, depuis les États-Unis, essaie d'organiser des départs, notamment d'enfants. Et là, ça se passe pour les juifs italiens. Et un jeune de son cabinet lui explique que le seul moyen de sauver ces jeunes, en fait, qui sont partis avec leur professeur, qui les cachaient, sont à travers la forêt. Et ce jeune collaborateur dit au rabbin, eh bien, il va falloir demander à la mafia italienne. Et pour le rabbin, c'est complètement impensable de pouvoir faire cela. Et fin de compte, au bout de 3 jours, certainement pour lui, de moments spirituels bien compliqués, il décide d'aller voir un parrain pour que lui fasse bouger la mafia italienne. Et il arrive avec une valise remplie de billets d'amis juifs expatriés aux États-Unis. Et là, le parrain le reçoit en le prenant de très haut, en le méprisant. Et lui dit, je vais quand même faire quelque chose pour ses enfants. Mais je vous demande de m'accompagner jusqu'au bout de ma vie de manière spirituelle, de prier pour moi.
C'est génial, ça.
Et d'être là le jour où je mourrai. Et le rabbin lui dit, je ne le ferai jamais. Parce que vous avez tué des hommes et des femmes, parce que vous représentez tout ce que je déteste, donc jamais je ne ferai cela pour vous. Par contre, je vous demande de sauver les enfants, et j'ai l'argent. Donc il refusera l'argent, les enfants vont être sauvés par la mafia italienne. C'est une histoire vraie, hein. C'est vraiment, on sait que la mafia italienne a aidé des juifs. Alors là, ils les ont fait passer en Suisse, notamment. Et à la fin du livre, le parrain demande à avoir des nouvelles du rabbin, qui entre-temps est décédé. Et il rencontre un autre membre de son cabinet et il lui dit « Je lui avais demandé de prier pour moi » et ce membre de cabinet lui dit « Mais il l'a toujours fait. »
Ah, oh, c'est beau comme histoire, ouais. C'est beau comme histoire.
Et j'ai vraiment découvert cela. Du coup, j'ai fait un petit peu de recherche. Je me suis dit « Non, c'est pas possible que la mafia italienne ait pu aider. »
Ah voilà. Si, voilà. Ça c'est très connu. Alors là,
ouais,
vraiment,
ça, moi, je ne savais pas.
Oui, ils avaient quand même un bon petit côté
humain.
Humain, c'est certain. Mais il y a eu tellement d'histoires invraisemblables. Je reviens sur cet ami, là, ça m'a beaucoup bouleversée parce que je le connais depuis quelques années et je le rencontre à Cannes et il m'avait jamais raconté cette histoire. Il avait 11 ans, il a été déporté de 9 à 14 ans. Et quand il avait 11 ans, il était en particulier dans un camp où les Allemands s'amusaient avec les enfants. C'est-à-dire qu'il le mettait contre un mur ou contre un arbre et puis il lui mettait une boîte de conserve sur la tête. Et un des soldats allemands lui tirait dessus comme ça. Et méchamment, il lui dit « Et là, je vais tirer un peu plus bas. » Et le petit gamin, mais il y a vraiment des grâces dans la vie. Il m'a dit « J'ai eu vraiment un flash. » Je lui ai dit « Écoutez, vous allez me tuer ? Moi, j'en ai rien à faire, j'ai plus rien. Mes parents sont morts, vous avez tué toute ma famille, je suis tout seul. » Mais il dit « Par contre, vous, toute votre vie, vous allez penser que vous avez tué un enfant de 11 ans, de sang-froid. Alors qu'allez-vous faire ? » Et il dit à ce moment-là, l'Allemand a remis son pistolet dans sa poche. Il est parti et il dit « Je sais qu'il est allé pleurer ». Donc il y avait quand même, mais c'est fou le nombre de cas qu'il y a pu avoir, tout à fait extraordinaire. Et puis le courage de cet enfant, mais je me dis, mais 11 ans quand même, tenir tête comme ça à un bourreau, c'est phénoménal. Et bien la pauvre petite Anne, enfermée dans son truc là-bas.
Alors justement, je vais un petit peu te contredire, parce que lorsque nous enseignons la Shoah, soit aux enfants de cycle 3, CM1, CM2, 6e, soit aux collégiens, plus particulièrement pour moi, des élèves de 3e.
Ils ont quel âge à ce moment-là?
Alors en 3e, ils ont 14-15 ans. Lorsqu'ils sont en CM1, ils ont 9 ans. Donc on n'enseigne pas du tout de la même façon.
Bien sûr.
Nous, justement, l'idée, c'est de travailler sur les émotions, mais... Tout à l'heure, tu parlais lorsque tu as vu le journal d'Anne Frank, oui, et que tu as dit, voilà, j'avais le même âge. Alors nous, l'idée, c'est justement pas cela. On ne souhaite pas que l'enfant puisse s'identifier. C'est trop difficile à vivre. Moi, je me souviens d'une élève qui m'avait dit un jour, on était dans la préparation pour aller à Auschwitz. Elle était venue me voir à la fin de la journée. Elle m'avait dit, madame, trop de morts. Trop de morts, trop de morts, trop de morts.
Moi, je ne peux pas, oui, bien sûr.
Voilà, elle était arrivée, je pense, au bout du processus. Et il était important pour nous de faire marche arrière. Et lorsque la municipalité de Luré a décidé d'inaugurer une rue au nom d'Anne Frank, il faut savoir qu'on n'est pas le seul village, on n'est pas le seul pays.
Bien sûr.
C'est vrai qu'avec une de mes amies qui s'appelle Sophie Bazemont, on avait entendu parler de cette exposition internationale itinérante de la maison Anne Frank à Amsterdam. Le problème, j'allais dire, lorsque l'on veut enseigner la Shoah, c'est qu'on est obligé de parler des camps de la mort. Et on est obligé de parler de ces enfants qui sont morts. Lors de la rafle du Veldiv, 4052 enfants vont partir dans le Loiret, puis ensuite vont être emmenés dans les camps d'extermination. Aucun ne reviendront. Donc, c'est trop dur pour les enfants de porter cette charge émotionnelle. Donc, l'idée était aussi, en parallèle de cette exposition, pour les élèves uniquement, pour le jeune public uniquement, de faire venir une autre exposition, celle-ci qui s'appelle « Sur les traces d'une photo ». C'est une association qui est à Paris qui s'appelle Yad La Yaled. Là, c'est l'itinéraire de 10 enfants en Europe, en France, mais qui ont été sauvés. Et c'est important. D'abord, ça remet les justes à leur place.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il faut savoir qu'en France, ça paraît fou, 300 000 juifs à peu près qu'on a répertoriés dans les années 20. En France, les trois quarts vont être sauvés. Il faut le savoir et il faut le rappeler. Là aussi, c'est quelque chose, moi je me forme beaucoup au mémorial de la Shoah, tu vois, on a remis la place des justes, j'allais presque dire l'église au milieu du village, mais c'est ça. Ils ont été interviewés, on garde maintenant en mémoire autant que celui des rescapés, et on les montre, voilà, on les met vraiment à l'honneur. Et si tu veux, il était important que les élèves puissent, oui, connaître l'histoire d'Anne Frank, qui va être déportée à Berkhelvensen et va mourir du typhus, mais il y a aussi des enfants qui ont été sauvés. Et justement, si tu as l'occasion de venir, dans cette exposition, c'est ces 10 enfants-là, 10 juifs européens, qui vont être sauvés. Tous, au final, vont repartir en Israël. Tous. Et ça aussi, c'est important que notre jeune public puisse comprendre. Pourquoi ? Parce que après, on sait ce qu'il va en découler. On sait qu'il va en découler un conflit israélo-palestinien. Et moi, pour moi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, lorsque tu parles des juifs à notre génération d'élèves, eh bien, forcément, nos élèves, parfois, pas évidemment, parfois, sont antisémites parce que le problème, c'est la Palestine. Et ils éludent complètement, ils n'évoquent absolument pas la Seconde Guerre mondiale.
Alors, il faudrait peut-être revenir sur l'origine du problème et savoir exactement dans quelles conditions les Juifs se sont installés en Israël. Ils ont acheté des terres aux Palestiniens, mais ça, personne ne le sait et personne ne le dit surtout.
Mais je crois aussi, Marie-France, qu'en 1947, lorsqu'il y a le début de ces grands mouvements, sincèrement, en Europe, on ne savait pas quoi faire de ces rescapés. Ils ne savaient pas où aller.
Il n'y a qu'à voir les errances de l'Exodus,
ouais.
Ce bateau dont personne ne voulait.
Voilà.
C'est fou. Eh bien, voici une première émission qui se termine. Il y en aura d'autres. Nous l'avons consacrée, bien sûr, en presque totalité à Anne Frank, cette figure extraordinaire qui a marqué toute une génération, en tout cas la mienne, bien sûr, et qui continuera à faire parler d'elle. Marlène, merci beaucoup de cette analyse brillante.
Merci à toi, Marie-France.
Merci, Alain, d'être venu dans nos studios.
Merci, Marie-France.
Et à bientôt pour une autre émission de l'Écho de ma commune sur ce même thème de la semaine du souvenir à Luret à l'occasion du baptême des quatre nouvelles rues de ce village. On peut l'appeler le village.
Tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, on y tient.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.